L'opéra au XVIIIe siècle. Une figure domine totalement l'opéra du XVIIIe siècle qui délaisse l'Italie et la France pour se poser en Autriche sur l'auguste front du compositeur d'opéra le plus célèbre au monde. Ne résistons pas au plaisir de faire défiler la kyrielle de ses prénoms, une ouverture digne de Don Giovanni à elle seule. Johannes Chrysostomus Wolfgang Amadeus Theophilus Mozart. Génie musical absolu, celui-ci compose musique de chambre, concerto, messe, symphonie, un requiem à vous glacer le sang et, c'est ici notre propos, des opéras parmi les plus fameux au monde. Et audacieux le bougre. Il veut et réalise des opéras en allemand, langue jusqu'alors réputée barbare, pour ce genre d'œuvre musicale auquel convenait en principe le seul italien. Parmi ses œuvres, citons Idoménée, roi de Crète en 1781, L'enlèvement au sérail en 1782, opéra en allemand, Les noces de Figaro en 1786, Don Giovanni en 1787, Così fan tutte en 1790, La clémence de Titus en 1791, La flûte enchantée en 1791, opéra en allemand.
Le saviez-vous ? Caperché. Les castrats étaient à l'origine les chanteurs d'église qui interprétaient les mélodies les plus aiguës. Mais la musique baroque raffolait de leurs registres et Naples devint un centre européen de formation. L'esprit demeurait le même, la voix de castrat servant à évoquer celle des anges. Plusieurs formes de castration étaient utilisées, mais la plus fréquente consistait en l'ablation des testicules avant la puberté. De ce fait, en l'absence de sécrétion de l'hormone mâle qu'est la testostérone, le travail normal de la mue n'apparaît plus. Le larynx ne s'allonge pas et la voix demeure aiguë, d'autant plus que la capacité thoracique demeure celle d'un homme, autorisant un plus grand volume sonore. Après avoir connu une grande vogue au XVIIe siècle, les castrats entamèrent leur déclin au siècle suivant, d'autant plus qu'ils étaient concurrencés par les femmes. Elles se produisent désormais sur scène, dans les opéras, et elles occupent les rôles autrefois dévolus aux castrats. Finalement, le pape Clément XIV, pape de 1769 à 1774, finit par interdire les castrats. Le dernier d'entre eux, Alessandro Moreschi, qui vécut jusqu'en 1922 et prouve que la pratique perdurait en dépit de l'interdiction, entre dans le chœur de la chapelle Sixtine en 1883. Il enregistre 17 pièces entre 1902 et 1904. Mais outre la qualité médiocre de l'enregistrement, son style est très éloigné de celui des grands castrats du XVIIIe siècle, comme Farinelli, qui nous est restitué grâce aux progrès des recherches baroques et aux voix exceptionnelles de David Daniels et de Andreas Scholl.
L'opéra au XIXe siècle. Le XIXe siècle peut être à juste titre considéré comme le siècle par excellence de l'opéra, tant le foisonnement des œuvres partout en Europe est alors important. En Italie. Ouvrons notre opéra personnel avec le maître Giuseppe Verdi, à la puissance dramatique rare, idolâtré de son temps et dont certains airs comme le « Bapiensero » de Nabucco hantent nos oreilles. Ses principales œuvres sont « Nabucco » en 1842, « Rigoletto » en 1851, « Le Trouvère » en 1853, « La Traviata » en 1853, « Un bal masqué » en 1859, « La force du destin » en 1862, « Don Carlos » en 1867, « Aïda » en 1872 et « Otello » en 1887. Trois autres grands compositeurs illustrent l'opéra italien au XIXe siècle. Gioachino Rossini, l'auteur du Barbier de Séville en 1816 ou de Guillaume Tell en 1829, mais aussi Vincenzo Bellini et sa Norma en 1831, ou encore Gaetano Donizetti avec Lucia di Lammermoor en 1835. En France, si l'Italie domine incontestablement la scène, la France produit des œuvres délicates d'inspiration orientaliste comme la Lacmée de Léo Delibes en 1883 ou des bluettes sentimentales comme Manon ou Werther de Jules Massenet, auteur le plus prolifique et le plus célèbre à l'époque avec pas moins de 43 opéras. Citons encore le très populaire Faust de Charles Gounod en 1859, popularisé ensuite dès l'enfance par le fameux air des bijoux que la redoutable Bianca Castafiore entonne à chaque occasion dans les albums de Tintin. Après avoir connu bien peu de succès à ses débuts, la Carmen de Georges Bizet en 1874 entre dans le cœur des mélomanes. Au tournant du siècle, Péléas et Mélisande en 1902, d'après la pièce éponyme de Maurice Maeterlinck, fait entrer la France dans le monde de l'opéra contemporain. Claude Debussy n'hésitant pas à tourner le dos à la construction classique sur un livret. En Allemagne. L'opéra allemand est illustré surtout pour la première moitié du XIXe siècle par Ludwig van Beethoven et Carla Maria von Weber, tous deux dans l'inspiration romantique dominante du moment. Retenons pour le premier son Fidelio en 1805 et pour le second Der Freischütz, c'est-à-dire Robin des Bois en 1821. Puis, toute la seconde moitié du siècle est dominée par la figure de Richard Wagner, qui entend faire de l'opéra le spectacle total, où livret, musique et mise en scène se répondent parfaitement. Pour accentuer cette unité de l'œuvre, Wagner recourt au leitmotiv, qui est une illustration musicale qui reparaît à espace régulier dans la composition. Ses œuvres maîtresses sont « Le vaisseau fantôme » en 1843, « Tannhauser » en 1845, « Lohengrin » en 1850. La tétralogie de « L'anneau du Nibelung » composée de « L'or du Rhin »,« La Valkyrie »,« Siegfried »,« Le crépuscule des dieux » entre 1852 et 1874, « Les maîtres chanteurs de Nuremberg » en 1868, « Parsifal » en 1882. En Russie. Sensibilisée par les influences extérieures, la Russie voit à son tour éclore l'opéra coloré d'un caractère national. Faits et héros sont puisés dans l'histoire de la Russie, le patrimoine commun, les coutumes et mentalités, afin de forger un opéra de caractère spécifiquement russe. Quelques grands noms ont traversé le temps jusqu'à nous. Modeste Moussorgski et son Boris Godounov en 1874, Nikolai Rimsky-Korsakov avec La fiancée du tsar en 1898 ou Le coq d'or en 1907, Piotr Ilitch Tchaïkovski et Eugène Onéguine en 1878 et La Dame de Pique en 1890.
Un peu de technique, bel organe. Tous les chanteurs sont classés en fonction de trois registres de voix, aigu, médium ou grave, à l'intérieur desquels on distingue encore des hauteurs, c'est-à-dire des caractères plus ou moins graves ou aigus. La tessiture désigne la capacité à émettre facilement des sons, depuis le grave jusqu'à l'aigu. Et quand des notes plus extrêmes peuvent être produites, mais seulement au prix d'un effort et un travail, on parle d'ambitus. Les voix de femmes sont regroupées, par commodité, avec les voix d'enfants. Quatre types sont distingués. Mezzo-soprano, au sens premier, à demi-soprane, désigne une voix moyennement aiguë, là encore déclinée du léger au dramatique. Soprano, terme employé pour les hommes également. Autrefois castra, aujourd'hui appelé sopraniste ou contre-ténor. Les sopranos, ou sopranes, sont les voix les plus aiguës et sont classées de la plus agile et moins puissante, dite soprane légère, en passant par la soprane lyrique, jusqu'à la plus puissante mais la moins agile, la soprane dramatique. Lorsque l'agilité est exceptionnelle, on parle de soprane colorature, aux vocalises éblouissantes. L'exceptionnelle Maria Callas couvrait tous les types de sopranes. Alto, voix grave des femmes. Contralto, voix féminine la plus grave. Les voix d'hommes se répartissent en quatre types également, du moins grave au plus grave. Contre-ténor ou sopraniste ou haute contre ou encore contralto masculin utilise un ambitus qui irait pour les femmes de la soprano à l'alto. Ténor. Divisé en ténor léger, agile et moins puissant, puis ténor lyrique, et enfin ténor dramatique. Basse, la plus grave de toutes les voix. Classée en basse chantante, proche du baryton basse et basse profonde, voix sombre et puissante. Baryton, terme qui signifie « dont la voix est grave », à mi-chemin entre le ténor et la basse. Classé à son tour, toujours en fonction de la plus grande agilité et moindre puissance, vers la plus grande puissance mais moindre agilité en baryton martin, le plus léger, baryton proprement dit, et baryton basse.
L'opéra rénové, XXe siècle. L'opéra au XXe siècle entame sa révolution en suivant les nouveaux courants qui traversent le monde musical dans son ensemble. Un de ces nouveaux courants est celui de la musique sérielle qui utilise la série de notes pour remplacer l'harmonie classique, avec Arnold Schönberg et ses opéras Erdwartung en 1909 et Die Glückliche Hand en 1910. Mais aussi Alban Berg avec Wojtek en 1925 et Loulou en 1937. Il y a également celui de la musique électronique qui intègre les instruments électroniques et les sons enregistrés, et sa variante électroacoustique avec Pierre Henry et Orphée en 1953, coécrit avec Pierre Schaeffer. Mais il s'agit là de compositions souvent destinées à un public averti. Conservons à l'opéra son caractère d'œuvre populaire destinée à un large public. Dans ce cadre, le principal compositeur contemporain d'opéra est Benjamin Britten, qui mêle à la construction classique des influences venues d'Asie du Sud-Est, s'inspire des airs de troubadours de l'époque médiévale. Ses œuvres, qui dominent le XXe siècle, sont pour les plus célèbres Peter Grimes en 1945, The Rape of Lucretia en 1946, Albert Herring en 1947, Billy Budd en 1951, The Turn of the Screw en 1954, Le Songe d'une nuit d'été en 1960 et Curlew River en 1964. Les plus grands festivals. Les festivals consacrés à l'opéra sont bien trop nombreux pour pouvoir être tous présentés ici. Voici donc une sélection des plus prestigieux avec Salzbourg, Bayreuth, Glyndebourne et Aix-en-Provence. Le Festival de Salzbourg. Le Festival de Salzbourg est créé en 1920 par le metteur en scène Max Reinhardt et l'écrivain Hugo von Hofmannsthal, tous deux autrichiens. Le festival consacré à l'opéra, mais aussi plus largement à la musique classique et au théâtre, se tient à Salzbourg tous les étés. Traditionnellement ouvert par le discours inaugural d'une personnalité du monde artistique ou politique, le festival se répartit selon la nature des spectacles donnés sur quelques lieux élégants courus par les amateurs du monde entier. Suivons les froufrous des robes longues qui se hâtent vers le Großes Festspielhaus, ou Grand Palais des Festivals, une salle d'opéra inaugurée en 1960 de 2279 places. Le Kleines Festspielhaus, ou Petit Palais des Festivals, une salle d'opéra inaugurée en 1925 de 1324 places. Le Felsenreitschule, ou Manège des Rochers, conçu au XVIIe siècle pour les chevaux de l'archevêque de Salzbourg, qui fut aménagé en 1926 pour accueillir des opéras ou des pièces de théâtre. Le Festival de Bayreuth. Le Festival de Bayreuth en Franconie, région du nord de la Bavière, est une particularité, dans la mesure où il est conçu par Richard Wagner pour ses propres œuvres, lesquelles continuent à y être produites depuis l'inauguration de 1876. Les représentations se déroulent chaque été au Festspielhaus ou Palais des Festivals. Tout y est conçu pour satisfaire le désir de Wagner de forger un cadre pour donner en spectacle non un opéra, mais une œuvre d'art totale. Un nouvel opéra y est construit, avec une machinerie adaptée. Après un début éclatant mais rendu difficile par les frais énormes engagés, le festival connaît un succès qui le dépasse depuis chaque année. Pour environ 50 000 places, les spectateurs sont en moyenne 500 000 à vouloir assister à la représentation de l'un des 10 grands opéras de Wagner. Un système de liste d'attente est donc en place en permanence. Un peu de patience. Il ne faut qu'entre 5 à 10 ans pour avoir une place. Le festival de Glyndebourne, créé en 1934, prend place chaque année entre printemps et été à Glyndebourne House, dans le comté de Sussex, au sud de Londres. À l'origine, Glyndebourne House est le manoir d'un mécène mélomane, John Christie. Il lui adjoint un théâtre où se déroule le tout premier festival, remplacé en 1994 par une salle capable d'accueillir 1200 spectateurs. La production est surtout consacrée aux opéras de Mozart et 6 œuvres se succèdent de mai à août. Le festival est une occasion unique pour de jeunes et talentueux interprètes de se faire connaître, d'autant plus que, cas unique en ce domaine, il se poursuit par une tournée au Royaume-Uni pendant plusieurs mois. Le Festival d'Aix-en-Provence. De son nom complet, le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence naît en 1948 et accueille depuis cette date tous les élateurs de Mozart principalement, mais aussi les amoureux de Georg Friedrich Händel ou de Benjamin Britten, avec Aix-en-Baroque en juillet. Le festival est créé en 1948, donc, à l'initiative de Gabriel Dussurguet et s'ouvre avec une représentation du Don Giovanni de Mozart. Le charme particulier du festival est aussi lié au lieu chargé d'histoire qui accueille les différentes représentations.